Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat. Et nous sommes en ligne avec Ravelli Lemel. Bonsoir Ravelli Lemel, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Ravelli Lemel, alors comme chaque semaine avec vous, on survole la paracha de cette semaine. Et il se trouve que cette semaine, il y en a deux. C'est Béar et Bechukotai. Et que notamment, dans Bechukotai, on retrouve ces fameuses bénédictions-malédictions. Très compliqué. Parce qu'on dit, voilà, tout ce qu'on nous promet, ça risque d'être terrible. Mais les commentateurs, les mefarchim ont bien dit attention, non, c'est bénédiction aussi. C'est bénédiction, malédiction. Et comme je ne comprends pas très bien, ben, Ravelli Lemel, vous allez nous expliquer.
Exact, exact. Nous sommes en effet dans deux parachiotes. Et Bechukotai, c'est ce texte dans lequel, eh bien, grande partie en tout cas du texte est consacrée à ces fameuses brachot ou klalot, bénédiction, malédiction, lorsque Dieu s'exprime vis-à-vis du peuple d'Israël, et avec ce fameux hymne, tout dépend, c'est-à-dire montrer qu'au fond tout va dépendre de nous, tout dépend du mouvement que va avoir l'individu dans son existence, et donc à partir de cela, eh bien, comme l'enseigne le Rabbi Mivolojin dans la traduction de cet enseignement d'Ama le Mala, sache, Ma le Mala, que ce qui est en haut, Mimcha, provient de toi. C'est-à-dire, évidemment, cette interrogation que l'on doit avoir systématiquement par rapport à tout ce qui peut se passer dans l'existence, et savoir que, eh bien, nous devons nous interroger sur le rapport qui existe entre les événements et nous-mêmes. On y reviendra sans doute un petit peu tout à l'heure, évidemment. Alors, j'aimerais m'arrêter très rapidement tout d'abord sur le début, lorsque l'on parle tout d'abord des brachot, des bénédictions. Et c'est intéressant de voir que le texte nous dit « Im bechukotai telechu bet mitzotai tishmaru vasitem otam », ce qui veut dire si vous allez littéralement, si vous allez suivant mes lois, c'est-à-dire si vous
littéralement, si vous suivez ma voie, quoi.
Dans mes chukim, dans mes décrets telechu, vous avancez, et que vous gardez mes commandements, ben si t'aimes autant, mais que vous les ferez. Trois mots différents, la notion d'aller, de garder, de faire. Alors, peut-être que l'idée serait la suivante. Le chok, vous savez, c'est le décret, c'est cette loi qui est a priori incompréhensible, comme la loi de la vache rousse, comme l'interdiction d'avoir un habit qui a du mélange de lin et de laine. Et le texte va nous dire, eh bien, si vous êtes capable d'avancer dans la vie avec cet état d'esprit, c'est-à-dire de ne pas sans arrêt chercher des explications de texte à tout, si en effet vous acceptez qu'il y a certaines mitzvot, commandements qui vous dépassent radicalement, évidemment vous voulez les comprendre, pénétrer le sens, mais si à un moment, de manière ultime, vous n'arrivez pas à l'appréhender, malgré tout vous avancez. Donc si au fond votre état d'esprit, votre mouvement d'existence s'inscrit un petit peu dans cette idée qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et nous allons malgré tout avancer dans le chemin que Dieu nous propose. Et que les mitzvot, les commandements tishmor, lishmor, garder, c'est une idée que j'ai très souvent évoquée, je pense même sur cette antenne, le mot shomer qui veut dire garder, ce sont trois lettres avec lesquelles on fait le mot rochem et morish, ce qui veut dire noter et faire hériter, ce sont les mêmes trois lettres mais organisées autrement, et tous les trois mots nous renvoient à l'idée de valeur, d'importance. Je garde une chose qui a de l'importance, je note une chose dont je veux me rappeler, je fais hériter une chose qui a de la valeur. Si vous donnez de l'importance à ces mitzvot, et à ce moment-là, vous les faites. Ce qui voudrait dire qu'au fond, Dieu attend du peuple d'Israël, non pas juste que nous soyons dans une application technique des choses, mais que nous ayons un rapport très très fort à ce que représentent les mitzvot. Tout d'abord, ces décrets, oui, nous les acceptons parce que c'est Dieu qui nous les demande. Après, nous leur donnons toute l'importance qu'ils doivent avoir. Nous avons une gestion priorité par rapport aux mitzvot. Et c'est dans cet état d'esprit-là que nous avançons en tant que juifs. À ce moment-là, en effet, l'univers des brachot, eh bien, l'univers des bénédictions arrive avec tout ce qui va autour de cela. Ça, c'est déjà donc le point de départ. Et puis, malheureusement, après, eh bien, on a un texte qui est plus difficile, dans lequel Dieu dit « Veim bechukotai timassu » et si justement vous vous, alors c'est très dur, si vous avez du mius, du dégoût pour mes lois, si presque vous vomissez mes commandements, pour ne pas faire mes commandements et pour pouvoir véritablement remettre en cause l'Alliance. Alors, c'est un verset qui est très dur, mais alors quand vous voyez en effet un petit peu ce que Rashi sur place nous dit par rapport à cela, c'est quelque chose qui est très bouleversant, parce que Rashi va s'arrêter pour essayer d'analyser un petit peu quels sont ces différents éléments. Imlot Ishmeu, si vous n'écoutez pas, c'est-à-dire si vous ne cherchez pas à approfondir le savoir et la connaissance de la Torah pour pouvoir bien comprendre ce qu'elle veut dire, si vous êtes dégoûté de mes décrets, Moes Be'acherim Ha'osim, terrible. Celui qui est dégoûté des autres qui font. C'est pas juste que lui ne veut pas faire, mais dire, oh là là, c'est qui ces gens qui font, c'est dégoûtant, c'est nul, c'est arriéré. Être dans une forme de vomissement de mes lois, sonner à Chachamim Dirachi, de la haine pour les sages du peuple d'Israël. Le Vilti Asot pour ne pas faire, monnaie et Acherim. C'est celui qui empêche même les autres de faire, il fait tout pour que les autres ne fassent pas. Être Mitzotai, tous mes commandements. Qu'offert chez l'autre civitime, eh bien, c'est celui qui remet en cause le fait que les commandements soient d'origine divine et considère, ben non, tout ça, ce sont des inventions humaines et donc on peut en faire ce que l'on veut. L'offre Hamed Briti et remettre en cause même l'essence même de ce que veut dire le judaïsme, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu créateur qui s'est révélé à travers sa Torah. Alors malheureusement arrive la notion de malédiction. Ce Rashi est très bouleversant parce que au fond, il révèle un petit peu toute une problématique qui peut exister. On ne supporte pas ceux qui font, on ne supporte pas ceux qui transmettent, on ne veut pas que les gens fassent, et puis on remet tout en cause. Alors, pourquoi est-ce que j'avais envie de m'arrêter sur cela? Parce que, vous savez, on vient de vivre des moments très compliqués au niveau du peuple d'Israël, et ces moments compliqués, ils sont très bouleversants, parce qu'en même temps, ils nous renvoient à cette dimension de solidarité incroyable. Comment se fait-il qu'on ait tous été plus qu'émus, on a pleuré, on était mal. Vous savez, on va dire, mais est-ce qu'on les connaissait? On les connaissait pas? Bon, d'accord, c'est des choses qui arrivent. C'est bouleversant. Les circonstances, le lieu, tout ce qui va autour de cela. Tous nos maîtres disent bien, Vaïdom Aaron, on n'a strictement rien à dire. On n'a pas commencé à faire de l'interprétation et du pourquoi et du comment. Les choses sont, elles sont bouleversantes. Et juste savoir un petit peu vers quoi ça doit nous amener. Vous savez, il y a un texte dans lequel on nous parle d'une discussion très surprenante entre des grands maîtres de la tradition juive pour savoir s'il avait été bon pour l'humain d'être créé ou pas. Et puis, ils arrivent à la conclusion que d'après la logique humaine, il valait mieux peut-être ne pas être créé. Ils disent, mais Avalarchav Shenivra, mais maintenant que l'on a été créé, on fait quoi? Eh bien, Yupashpesh, Bemassav, Yamashmesh, Bemassav, ils disent que l'on repense à nos actions et surtout que l'on se memashmesh, c'est-à-dire que l'on prend les tâtes, c'est-à-dire qu'on essaye de voir si véritablement on fait les choses comme il se doit au niveau de l'état d'esprit surtout. Et au fond, quand on est confronté à des situations telles qu'elles viennent de passer, on doit être capable de dire, Yoter Tov, qu'est-ce qu'on aurait aimé que les choses ne soient pas à Valarchav maintenant, qu'elles sont là, qu'est-ce qu'on fait avec? Il y a cette notion donc de Yomashmesh Bemaasav, c'est-à-dire de ne pas juste se voir dans une posture de celui qui pratique vis-à-vis de celui qui ne pratique pas, ou alors et se dire, non mais tout ça, c'est le problème de l'aide gratuite, bien sûr, évidemment, et je partage complètement ceux qui vont dire qu'il faut travailler sur cela, et c'est fondamental, mais vous savez, c'est tellement compliqué de le mettre en place au quotidien, parce que tout simplement, ça commence d'abord peut-être avec notre entourage proche, avec celles et ceux qui sont pas trop loin de nous, avec lesquels nous devons faire preuve d'ouverture, d'amour, de compréhension, mais cette notion de Yomashmesh Bemaasav, c'est se dire, est-ce que nous ne sommes pas au fond sans nous en rendre compte en train de construire des mondes et des systèmes dans lesquels eh bien, celui qui fait n'est pas comme nous, il nous déplaît, celui qui enseigne n'est pas de la manière dont j'aurais aimé que l'on enseigne, je ne le supporte pas, j'ai pas envie que les gens appartiennent à tel groupe parce que je trouve que c'est pas le bon groupe, etc. etc. Et au bout d'un moment au fond, ça veut dire que l'on devient soi-même sa propre référence. Qu'on devient soi-même sa propre référence et que l'on décide de décerner les bons et mauvais points, eh bien, chacun se forme là dans son univers et l'unité du peuple d'Israël n'est plus là, même si on se retrouve dans des groupes et dans des systèmes qui sont chacune et chacun dans lesquels on se retrouve dans une forme de pratique de la Torah et des Mitzvot. Alors, peut-être que lorsque l'on a été confronté à des situations de ce type, eh bien, il va falloir aussi savoir qu'est-ce qu'on met en place de manière concrète. Je pense que les autres intervenants sur cette antenne vont évoquer des notions qui sont extrêmement puissantes et très fortes, savoir laisser la place à l'autre, savoir être à l'écoute de l'autre, savoir un petit peu s'abaisser pour pouvoir justement, en s'abaissant, laisser plus d'espace. C'est vrai. C'est tellement vrai, c'est ce que nos Chachamim nous demandent de mettre en place. Mais vous savez, Rabbi Israël Salanter, qui a été le maître par excellence du moussard, de l'éthique juive, disait toujours qu'il est plus simple pour quelqu'un d'étudier le Talmud 7 fois que de transformer une mida, de transformer un point de son caractère, de se transformer dans un modèle de fonctionnement. Pourquoi ? Parce que on touche au plus profond de soi-même, parce que ce sont des choses qui exigent de nous un travail quotidien sur toutes sortes de petites choses. Et peut-être que c'est vers cela qu'il faudrait imaginer se tourner. C'est-à-dire, évidemment, il y a des choses à dire. Évidemment, il y a lieu de ne surtout pas être dans une quelconque forme d'interprétation et de dire ceci, c'est parce que, qui sommes-nous pour dire cela ? Mais une fois que nous avons exprimé des idées qui sont belles, qui sont grandes, qui sont fortes, se dire, mais concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ici et maintenant et aujourd'hui ? En dehors de mouvements forts qui nous rassurent, mais qui ne sont pas nécessairement l'expression de notre identité. Et à ce sujet-là, et je veux conclure là-dessus, il y a un texte très très bouleversant dans le Talmud, dans lequel il y a un maître qui s'appelle Rabbi Hanina ben Toradion, qui va être exécuté par les Romains parce qu'il a fait preuve d'un courage incroyable en cherchant, malgré les décrets des Romains, à transmettre la Torah. Et il va être condamné à mort, il se tourne vers son collègue, Yeshua ben Kisma, et lui dit, dis-moi, penses-tu que j'ai le droit au monde futur ? Alors la question est incongrue, évidemment. Il a donné sa vie pour continuer à transmettre la Torah et il n'a pas de droit au monde futur. Et ce maître, ce collègue lui dit, t'as fait quelque chose dans ta vie ? Est-ce que tu te rappelles de quelque chose de particulier ? Et lui dit, je sais pas, je réfléchis. Et puis il s'est dit, oui, un jour j'avais de l'argent qui était réservé pour le repas de la fête de Pourim, mais puis il s'est mélangé avec de l'argent pour les pauvres, et comme je ne savais pas exactement quelles étaient les proportions de l'un et de l'autre, alors j'ai tout donné aux pauvres. Et à ce moment-là, l'autre mec lui dit, oula, si t'as été capable de faire une chose pareille, alors que je sois aussi à tes côtés au Gan Eden. Et Rav Dessler pose la question et dit, mais je comprends pas. Cet homme a donné sa vie pour la Torah, et là, c'est un petit acte, un acte important, mais petit acte. Et il nous dit, au fond, ce qui révèle la grandeur de quelqu'un, ce sont dans les petites choses. Les grands actes, bien sûr, et il a donné sa vie, et ça nous dépasse, mais l'enseignement que le Talmud est en train de nous dire ici, c'est que ce qui va montrer qu'il y a une démarche réelle, profonde et intérieure, ce n'est pas nécessairement que dans les grandes actions. C'est au contraire dans ces toutes petites choses que l'on va faire au quotidien qui sont non visibles. Eh bien, c'est peut-être là qu'on va voir de manière extrêmement concrète et évidemment à partir du Klal Israël sur l'humanité entière. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Rav Eli Lemel. Bonsoir à vous, la semaine prochaine. On part pour Jérusalem, on le retrouve Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai.
Shalom Alechem, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. On a passé des jours difficiles, tout Am Israël a passé des jours difficiles, mais voilà. On va avancer, mais on doit réfléchir. On doit réfléchir.
Alors, justement, vous m'avez dit, lorsque je vous ai appelé pour préparer l'émission, vous m'avez dit, je veux parler que de Meron ce soir. Parce que c'est trop gros, parce que c'est de ça que je veux parler. Rav Mordechai Biton, pour la première fois, j'entends vraiment de partout des gens dire, il faut qu'on se remette en question. C'est-à-dire, en général, c'est d'ailleurs humain, c'est pas seulement israélien, quand il arrive une catastrophe, le réflexe premier est de dire c'est de la faute à lui, le politique, le policier, que sais-je, mon voisin. Et là, j'entends quand même beaucoup de gens sérieux dire non, là on va pas le faire comme ça cette fois-ci, il faut qu'on se mette en... Faut qu'on se remette en cause.
C'est-à-dire qu'il y aura une commission d'enquête. Donc on va laisser à la commission d'enquête le soin de déterminer les responsabilités. Et on va espérer que ceux qui sont les responsables de ce carnage iront en prison. Ils seront jugés équitablement, bien sûr, mais que s'ils ont une responsabilité, ils le paieront. Et ils seront rayés de la carte de la vie publique. Parce que ce n'est pas possible qu'un lieu qui peut contenir 5, 6 000, 10 000 personnes, depuis plusieurs années, on y entasse près de 500 000 personnes, et chaque fois qu'on termine l'événement, on termine en disant « Oh, on a vécu un grand miracle !» Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, etc. Ça fait des années, comme on dit en Israël, que Aktovet a été à la kire, c'est-à-dire que c'était prévisible. Donc il est temps maintenant que tous ceux qui ont la main dans cette histoire... Mais je veux dire une chose, c'est pas tellement aujourd'hui notre problème. Notre problème, je pense qu'il est beaucoup plus, à la fois plus profond, et c'est un défi. On va parler en termes de défi plutôt qu'en termes de problème. Il y a un défi ici, d'accord ? Nous, le peuple juif, on est un peuple formidable. On est plein de recettes, de bonté, de hardou, de solidarité. Qu'est-ce que les juifs ne font pas les uns pour les autres ? Qu'est-ce qu'un juif ne ressent pas quand il entend ce qui se passe avec Madame Halimi et le déni de justice dont elle est victime après son décès ? Tout le peuple juif est réuni dans cette souffrance. Et lorsqu'il y a une joie, lorsqu'il y a un juif qui est félicité quelque part dans le monde, eh bien, on est fier. Donc, on est un peuple qui est très uni, qui est très fort dans l'union. Maintenant, on a un Yetzer Hara. On a un mauvais penchant qui est à la hauteur de cette force de chesed, de bonté et de hardout. C'est qu'on a du mal à vivre ensemble, depuis la fondation du peuple juif, depuis la vente de Yosef par ses frères, et depuis les différents épisodes de galouillot, d'exil qu'on a connus, on traîne ce problème du vivre ensemble. Donc on a un problème. Et d'ailleurs, les Gdolé Israël, les grands, s'y sont pas trompés, parce qu'ils ont indiqué très clairement qu'il fallait se renforcer dans la Ahavat Rinam, dans l'amour gratuit. Et ça, c'est les Charidim vis-à-vis des Chilonim, les Chilonim vis-à-vis des Charidim, les Datim Léomim vis-à-vis des Charidim, les uns avec les autres, mais c'est aussi beaucoup plus profond que ça. C'est que vous et moi et tout le monde sommes obligés de se poser devant une glace et de se dire, est-ce qu'on est capable de gérer un conflit dans le sens de la sortie ? Est-ce qu'on est capable de vivre avec l'autre et d'accepter ce que nous disent les halakhot ? C'est des halakhot plutôt, comme il est interdit de manger du chazir, du porc, il faut faire Shabbat. C'est écrit par exemple que si j'ai un conflit avec quelqu'un, tu ne dois pas haïr quelqu'un dans ton cœur. Si tu as un problème avec lui, tu dois aller lui dire. Tu ne dois pas laisser plus de 24 heures sans lui adresser la parole. Combien de gens se disputent et ne respectent pas ça ? Et d'ailleurs, Rav Gershon Edelstein a dit dans ses déclarations qu'il fallait apprendre à être moins makpid, être moins pointilleux, être moins dur. Il y a un conflit. Pourquoi ne pas rester sans se parler pendant des semaines ? C'est parti des halakhot, d'accord ? Par exemple, dans les halakhot du Lashon Hara, dans les lois du Lashon Hara, on a l'habitude de considérer que quelqu'un qui s'est vraiment comporté comme une crapule, vraiment il m'a fait un coup mais vraiment dégoûtant, j'ai le droit d'aller raconter ça partout à tout le monde et de toutes les manières, mais les lois du Lashon Hara me l'interdisent, il y a des choses que je peux faire, des choses que je ne peux pas faire. Et donc on connaît mal ces halakhot, on ne les étudie pas toujours. Donc là aussi les Gdolim ont insisté, vous voyez, et moi je pense que la remise en cause elle est ici très profonde, parce que des juifs aient piétiné des juifs et qu'ils étaient conduits béonès, c'est-à-dire de manière forcée à piétiner d'autres juifs, ça témoigne qu'il y a chez nous une difficulté dans le vivre ensemble qui est beaucoup plus large.
Alors justement, moi ce que je me suis dit deux choses. Moi qui ne suis pas rave évidemment et qui par ailleurs ne se permettrait pas de tirer le moindre enseignement d'une chose aussi horrible. J'ai pris des événements comme ça en pleine figure et je me suis dit deux choses. La première, pour quelqu'un de croyant, c'est très frappant de voir des gens faire la fête avec Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est réputé comme être l'un des plus grands, les rabbanim, même les plus ésotériques en plus, l'un de ceux qui étaient les fondateurs de la Kabbale, etc. Donc voir ce massacre à ce moment-là, c'est terrible. Mais je vais essayer d'expliquer ça de manière d'abord rapide, évidemment, mais en plus très, très, très fine, parce qu'il faut être fin. On peut pas, en plus, devant vous, je ne vais pas venir dire, voilà, j'ai un enseignement. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que je me suis dit, voilà, ça fait quand même un an que les Israéliens et les Juifs à travers le monde, ils n'en peuvent plus de se détester, ils n'en peuvent plus. C'est le moindre, c'est de la faute des religieux, non, c'est de la faute de la gauche qui manifeste, non, c'est de la faute, regardez, à chaque fois qu'il y a un mariage chassidique, tout le monde a envie d'exploser chez lui, et inversement, quand on est, j'imagine, chassidique, ce que je ne suis pas, à chaque fois qu'on voit des gens sur une plage, on a envie de les tuer. Tout ça, je pense que il y a dû y avoir une... j'ai envie de dire, et j'espère ne pas dire une bêtise, ça donnait l'impression que ça devait exploser. C'était trop de...
Oui, il y a effectivement dans le cœur de la vie publique, parce que c'est à ce niveau-là que ça se joue, dans le cœur de la vie publique, il y a un cœur qui bat, mais qui n'est pas le cœur individuel de chacun d'entre nous. Je m'explique. Un type comme Yair Lapid, par exemple, qui est un laïc israélien, a, par exemple, voulu mettre de l'ordre à Méron. Et pourquoi il a voulu faire ça? Pour que tout le monde puisse aller à Méron fêter religieusement, lui qui est un laïc, le pèlerinage de Méron. Par qui il a été combattu? Par les associatifs qui lui ont dit « Tu veux à nouveau faire des nouvelles xérotes et des décrets contre les religieux, donc on va aller à la Haute Cour de justice, et figurez-vous qu'ils ont gagné contre lui. » On est le monde à l'envers. C'est-à-dire que dans le cœur de la vie publique, il y a une espèce d'opposition, mais dans le cœur individuel d'un Yair Lapid, il y avait ce souci que les gens qui viennent là-bas puissent fêter Rabbi Shimon, le fondateur, le révélateur de la Kabbalah, dans les meilleures conditions possibles. Voilà le cœur du paradoxe. C'est-à-dire que chaque juif a un nitzotz eloki, chaque juif a une étincelle divine en lui, et même un Yair Lapid, qui est un laïc, il va se soucier du fait que tous les religieux, de toutes sortes, traditionnalistes, orthodoxes, pas, puissent aller fêter Rabbi Shimon. C'est à ça qu'il faut se référer aujourd'hui. Il y a dans le cœur de chaque juif une étincelle divine qui ne s'éteint pas, et il faut la voir, et il faut l'aimer, et il faut apprendre à l'apprécier. Alors on peut avoir, à part ça évidemment, des différents politiques, des différents idéologiques, c'est normal, mais de là à virer dans le tribalisme et le cannibalisme politique, et se retrouver dans ces atmosphères d'affrontement horribles qu'on vit ici aujourd'hui en Israël, il y a un pas sur lequel on doit réfléchir. Alors, pour ne pas en rester à des idées mères, parce qu'il faut aussi donner parfois des solutions pratiques. Moi, je dis toujours, en tant que thérapeute du couple, je dis toujours aux gens, avant la manière dont vous vous parlez, il y a ce que vous pensez l'un de l'autre. Peut-être que tous les matins, quand on dit Modéani, on se lève, on remercie Hachem de nous avoir rendu notre âme, on devrait se dire pendant 15 secondes, quelle joie de faire partie d'un peuple aussi extraordinaire. Maintenant, il y a des gens qui sont différents, mais ils ont tous une âme divine, et ils ont tous une étincelle divine en eux. J'aime chacun d'entre eux. Peut-être que je ne les comprends pas, mais je les aime. Voilà, se dire ça. Parce que la pensée, c'est l'expression de l'âme. Et nous, on tient dans la Gemara et dans la Halakha que la pensée, elle a une action dans les mondes spirituels et que cette addition de pensée, alors elle peut avoir de l'effet sur le peuple juif. Celui qui pense le contraire de ça et qui prie n'a pas compris ce que c'est la prière, parce que je suis seul en face d'Hachem quand je fais ma Amida silencieusement. Et pour ça, pourtant, l'addition de toutes ces paroles monte pour produire de la bonté. C'est la même chose pour les pensées. Avant la manière dont on va se parler, on va commencer à penser les uns des autres qu'on a tous une étincelle divine et une âme divine et qu'on va aimer chaque juif. D'ailleurs, je vous rappelle que tous les matins avant la prière, avant de réciter le texte des corbanos et sacrifices, on doit dire « Je prends sur moi la mitzvah d'aimer chaque juif et j'aime chaque juif et je peux maintenant ouvrir ma bouche pour prier Hachem ». C'est vous dire à quel point c'est quand même quelque chose qui est effectif et qui a une incidence du point de vue du comportement et du point de vue de la halakha.
Est-ce que le fait que tout le monde soit responsable vous frappe également? Parce que on n'a pas encore la commission d'enquête, mais rarement une catastrophe nationale aura pu être aussi prévisible.
Évidemment, de tous ceux qui y participent et qui se poussent et qui se bousculent, action, comme on dit en Israël, action, ça fait partie du truc de pousser à Méron, d'accord ? Jusqu'aux policiers qui font n'importe quoi, jusqu'aux politiques, jusqu'aux associatifs qui ont géré ça comme des cannibales et des amateurs, et jusqu'aux responsables gouvernementaux qui n'ont pas donné les budgets en temps et en heure, alors que ça aurait dû être fait, il y a un certain nombre de choses qui ont dû être faites, on commence à le voir maintenant, hein. Ça commence à sortir, et on se rend compte aujourd'hui que finalement, le Réchout Amécomi, c'est-à-dire le conseil régional qui gère, n'a pas opéré un certain nombre de choses qui avaient été prévues aussi. Donc tout le monde est responsable, et je dirais même de manière plus concrète encore, c'est que comme à Méron, tout le monde va à Méron, religieux et non religieux. Méron, c'est un endroit dans lequel tout le monde se retrouve. On peut dire qu'il n'y a pas d'endroit plus consensuel en Israël que Rabbi Shimon. Donc puisque tout le monde est là-bas, tout le monde participe, donc tout le monde est responsable. Donc on doit tous, à la fois sur le plan spirituel et en même temps sur le plan pratique et concret, se poser des questions et prendre nos responsabilités, tous. Et évidemment, il faut souhaiter que la commission d'enquête, non seulement pointe les responsabilités, mais surtout que d'ici l'année prochaine, elle fasse des aménagements qui doivent être faits, parce qu'on ne pourra pas avoir, il n'y aura pas de Rabbi Shimon l'année prochaine si les choses ne sont pas aménagées.
Alors, vous m'amenez vers ma dernière question, et qui est elle aussi paradoxale. Est-ce que de voir le monde orthodoxe aujourd'hui réclamer que la police fasse son travail, c'est pas justement un signe d'intégration, du fait que la communauté orthodoxe ne peut pas vivre en dehors du pays comme elle a essayé de le
pas,
faire.
Les communautés orthodoxes ne vivent pas en dehors du pays, parce qu'aujourd'hui, il y a des ministres, aujourd'hui, il y a des institutions entières dans lesquelles les Haredim sont mêlés. Et je dirais même plus, c'est qu'il y a beaucoup de policiers qui eux-mêmes sont des gens qui ont fait tchouva et sont liés aux communautés orthodoxes. Donc on va dire qu'aujourd'hui, avec 1 750 000 orthodoxes en Israël et je vous dis 2 millions d'orthodoxes, ça y est, cette jointure, elle s'est faite. Bon. Là, on y est. Mais je crois que là, ici, dans cette affaire de Méron, ce qui, moi, me choque aujourd'hui, c'est précisément qu'il y a un fossé culturel entre certains acteurs laïcs et certains acteurs haridis. C'est-à-dire que la pression de la propagande contre le monde haridi était tellement forte qu'elle a conduit à des comportements qui sont des comportements d'hostilité militante. Et la même chose du côté des organisateurs, c'est-à-dire les chassidim et les groupes chassidim qui se partagent, chassidim et autres d'ailleurs, qui se partagent le terrain là-bas, truc, il y a aussi une espèce d'hostilité, vous voyez. Et cette hostilité-là, aujourd'hui, on comprend qu'elle n'est plus de mise. Normalement, ces gens-là auraient dû se donner la main depuis plus longtemps. Ces gens-là auraient dû comprendre qu'on ne fait pas venir 500 000 personnes, femmes et enfants, dans un endroit dans lequel ils peuvent mourir. Ils le savaient. Donc c'est là que se trouve aujourd'hui aussi le point. Arrêtons de penser, quand on organise un événement et quand on vit ensemble en Israël, qu'on peut être des ennemis les uns vis-à-vis des autres. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. C'est cette culture-là qui est devenue aujourd'hui une culture délétère. Et il faut que chez les Haridim, effectivement, il faut que ça change, mais il faut aussi que chez les Chilonim, ça change. Il faut aussi que dans la presse chilonite et dans les murs chilonites, on arrête de rentrer dans ces systèmes d'accusations permanentes et de procès d'intention permanente. Vous savez, j'ai été invité 2 fois sur I24 pour venir parler, mais je n'ai pas voulu y aller. D'abord, je n'arrivais pas à parler. Je n'arrivais pas. Mais je craignais surtout, si vous voulez, de me retrouver comme ça dans des configurations de débats idiots avec, si vous voulez, ce système où on vous pousse à vous justifier parce que vous êtes haridi, etc. On n'est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, tout Israélien comprend, tout Israélien, religieux ou pas, doit comprendre qu'on est, alors je vais paradoxal, c'est souriant, mais c'est comme ça, on est condamné à vivre ensemble. Alors au lieu de se condamner, donnons-nous la main et comprenons qu'on n'a pas des cultures qui sont si différentes que cela les uns des autres. On peut vivre ensemble.
Rav Mordechai Bitton à Jérusalem, je vous remercie pour ces réflexions. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne avec Maria Chadré. Bonsoir Maria Chadré.
Bonsoir Bernard.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom ou Mevorach.
Mariacha, vous êtes un peu passé le mot les uns les autres parce que vous venez de me dire, moi Bernard, ce soir je parle de Méron.
Eh oui.
Et pas de la paracha comme vous faites d'habitude. Qu'est-ce que vous voulez dire sur Méron ?
Je vais aussi parler de la paracha, hein, parce que vous savez, tout est lié, mais oui, je suis habitée par. Habitée, hein, c'est le terme, par cette tragédie. Et. Ça nous accompagne à chaque seconde, à chaque instant, c'est terriblement douloureux. Et voilà, on va essayer de voir un petit peu des clés dans la paracha de cette semaine, mais liées à cette terrible tragédie. Alors, je voudrais m'arrêter sur un verset dans Berukotai. Vous savez que cette semaine, nous lisons Behar Berukotai. Les deux parachiotes sont réunies. Elles traitent toutes les deux du même thème, de la relation à notre terre, c'est-à-dire dans Béar, du fantasme de force que l'on pourrait avoir en pensant que nos productions, c'est le résultat de nos efforts. Et dans Berukotai, c'est toujours le lien à la terre, mais cette fois-ci, la terre comme miroir de notre acceptation de la Torah ou pas. Et alors, vous savez, la paracha de Berukotai est une paracha très douloureuse. Il y en a deux dans la Torah qui sont très douloureuses, Berukotai et Kitavo. Kitavo est lu avant Rosh Hashanah, Berukotai est lu juste avant Shavuot, et dans les deux cas, dit la Gemara, c'est afin que cesse l'année et ses malheurs. Alors, parce qu'il y a en fait deux formes de Rosh Hashanah dans l'année, un réel Rosh Hashanah, on va dire le premier Tishri, mais Shavuot, c'est aussi d'une certaine façon un Rosh Hashanah, on l'abordera peut-être ensemble ce thème la semaine prochaine. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il faut absolument que Berukotai soit lu avant Rosh Hashanah, avant, pardon, donc Shavuot. Et dans quel objectif? Eh bien, dans l'objectif que tout ce qu'il y a de, comme malédiction, hein, on dit comme ça, des clalotes, comme tout ce qui est écrit de négatif dans le texte de la Torah soit lu dans cette période actuelle qui est la période du Homer. Alors, comme vous le savez, généralement, la période de deuil du Homer se termine au bout de 32 jours. Lev Yamim, c'est la valeur numérique du mot lev, lève le cœur, comme pour dire il faut bien, bien, bien travailler toutes les caractéristiques du cœur pour pouvoir être un bon réceptacle à la Torah. Et puis, on sait que normalement, le 33e jour du Homer a cessé l'épidémie des élèves de Rabbi Akiva. Oui, mais ça, c'était il y a quelques 2000 ans. Et je crois qu'aujourd'hui, le fait qu'à l'Agba Omer, il y ait une tragédie d'une telle ampleur, c'est pour nous dire que de nos jours, on ne peut pas dire que l'épidémie ait cessé, on ne peut pas dire que le kavod soit de mise entre les uns et les autres. Alors, je voudrais m'arrêter sur un verset de Berukotai qui, il me semble, est très révélateur de ce à quoi nous avons tous assisté donc cette semaine. Le verset dit la chose suivante, verset 37. Alors, encore une fois, nous sommes dans une partie qui annonce les choses terribles qui tomberont sur le peuple d'Israël s'ils ne suivent pas le chemin de la Torah. Et le texte dit comme ça, « Vekashlu ish be'achiv kemipne cherev. Ils trébucheront l'un sur l'autre comme à la vue de l'épée, verodef en, mais personne ne les poursuit, et pourtant ils trébuchent. « Velotie lachem tkouma » et ils ne pourront pas se relever. » Rachi sur place, alors déjà rien que le verset, je crois que c'est un verset descriptif de ce qu'on a vu, donc c'est un verset de la parasha de cette semaine.
On est sans voix.
Et sur place, pardon ?
On est sans voix.
On est sans voix, absolument, ouais. Et à la lecture de Rachi,
un peu plus. Pourtant personne ne les poursuit, c'est incroyable.
Et c'est ça, et ils ne peuvent plus se relever. Lotier la chem tkouma. Alors, que dit Rachi là-dessus ? Rachid dit là-dessus, quand ils voudront prendre la fuite, ils trébucheront l'un sur l'autre, car ils s'échapperont dans la panique. Rachid sur place, Rachid qui a écrit ces mots il y a 1000 ans. Ils s'échapperont dans la panique. Et donc ici, le texte de la Torah, pour être très concret, dit des fois, il y a un danger qui est réel. C'est un attentat, c'est un pays arabe qui déclare la guerre ou qui envoie des roquettes. Et nous avons des ennemis qui sont des ennemis caractéristiques. Mais il y a une autre forme d'ennemi qui n'est pas descriptible, à ce niveau-là. Et ça va générer le fait de s'échapper dans la panique. Alors, juste avant de dire ce que le Midrash dit là-dessus, ce que moi, je ressens le besoin de dire, c'est d'abord qu'on ne va pas perdre notre temps à chercher des responsables. Oui, bien sûr, cet endroit aurait dû depuis bien longtemps être sécurisé, bien évidemment. Malheureusement, ils le feront suite à une tragédie, mais enfin, il était temps. Il était temps de le faire, mais pour autant, il n'est pas nécessaire ici de chercher des responsables. Par contre, je crois qu'il peut être intéressant d'analyser des choses simples autour de cette tragédie. La première chose que j'analyse, c'est que c'est une tragédie qui touche la partie pratiquante du peuple d'Israël. Comme si il y avait un message à nous dire, à leur dire. L'autre élément que je voudrais dire, c'est que la façon dont ces personnes ont perdu la vie, c'est par manque d'air et par manque d'espace. Et je crois que c'est significatif. C'est-à-dire, il aurait pu y avoir un accident de voiture, un Dieu préserve, un bus qui se retourne ou autre. Enfin, chaque année, hein, moi personnellement, chaque année, je suis inquiète à l'approche de l'Agba Omer, en sachant qu'il y a une grande, grande quantité de personnes au même endroit. Je suis inquiète d'attentats terroristes ou autres. Et là, la façon dont Dieu a décidé que ces personnes perdront la vie, bien, je crois que c'est significatif. Ils ont manqué d'espace. Ils ont manqué d'air. Et on sait très bien que les élèves de Rabbi Akiva, qui eux sont morts jusqu'au 32e jour, ce manquer de respect. C'est-à-dire, il y avait une forme de concurrence entre eux. Et la Gemara raconte quand l'un donnait une réponse meilleure que l'autre, il y avait une jouissance à avoir écrasé l'autre, à être au-dessus, à être supérieur. Comme si l'espace que je prenais, eh bien, si je le prends sur ton espace, c'est encore mieux. Comme s'il n'était pas possible de vivre l'un à côté de l'autre en respectant nos espaces, nos espaces respectifs. Et donc, pour moi, à mon niveau, hein, c'est une interprétation très personnelle, mais vraiment qui me sort de l'intérieur. Je crois, parce que j'ai beaucoup vécu en Israël, j'ai vécu 10 ans en Israël, et vraiment au sein du monde ultra-orthodoxe, que j'aime énormément, mais on est dans l'obligation de dire des choses à un moment. Il y a une nécessité majeure et absolue à réfléchir à cette notion-là de place que l'on donne aux uns et aux autres. Sommes-nous en concurrence les uns les autres? Est-ce que pour exister, je dois annuler ton existence ou est-ce qu'on peut tout simplement coexister? Donc voilà, la première des choses, ils s'échapperont dans la panique, pour moi c'est ça, c'est ce manque d'espace. La deuxième chose que je vois, c'est qu'il y avait des personnes de 9 ou 10 nationalités différentes. Donc il y a ici un message qui est, je crois, international. Et les personnes aussi qui sont parties sont chassides, Breslav, Gour, Vilnitz, je ne sais quoi. Ils sont séfarades, ils sont ashkénazes, ils sont, comme on l'a dit, de plusieurs nationalités. C'est-à-dire qu'il y a ici un message très clair, un message très clair d'unité. Alors, cette unité, on la voit, hein, elle est palpable, elle est visible. Mais pourquoi faut-il, mon Dieu, attendre une tragédie pour pouvoir vivre dans l'unité? Pourquoi ce n'est pas possible d'être davantage dans le mélange? Et je crois qu'ici, en France, heureusement, grâce à Dieu, le monde orthodoxe est beaucoup plus dans le partage d'une certaine façon. On va dire qu'il y a des mariages séfarades ashkénazes, heureusement. Je crois que c'est les plus beaux mariages et les plus belles naissances. Il y a des mélanges, je veux dire, moi qui ai une éducation tout à fait lituanienne, je suis passionnée de chassidoute. Et il y a des échanges et des va-et-vient qui sont moins courants en Israël, disons-le. Et voilà que quand on s'échappe dans la panique, eh ben, il n'y a plus de différence. Et il y a un message, je crois, ici, d'Hachem. Je terminerai donc à ce niveau-là sur ce que dit le Midrash, rapporté par Rashi, toujours sur ce verset, « Ils trébucheront l'un sur l'autre ». Le Midrash dit la chose suivante, « Ils trébucheront un homme par son frère » signifie que chacun risque de trébucher à cause de la faute de son prochain, étant donné que tout Israël, tout le monde en Israël est responsable l'un de l'autre, comme on dit, « Kol Israël arevin zelazé ». C'est-à-dire que ici la Torah dit finalement, c'est une punition, Dieu préserve, pas une faute, une punition collective, mais chacun tombe à cause de la faute de l'autre. C'est-à-dire que nous sommes une seule, le Midrash insiste sur le fait que nous sommes finalement un seul corps. Kol Israël arevin, c'est-à-dire que nous sommes responsables les uns des autres. Et là, je vais le dire de façon positive. Dans mes cours, souvent, j'insiste sur cette idée des influenceurs et des influenceuses qui sont des nouveaux métiers qui ont apparu avec les réseaux sociaux et qui éveillent en moi cette réflexion. Finalement, si on peut être un influenceur pour faire acheter un habit, pour aller manger dans tel restaurant, c'est-à-dire finalement, j'influence l'autre dans les décisions superficielles de son existence, ne pouvons-nous pas être un influenceur de façon positive? C'est-à-dire que finalement, chaque personne qui respecte la Torah, qui respecte Hachem, qui accomplit les mitzvot, finalement, représente une influence dans son cercle restreint ou moins restreint. Et ça, c'est une responsabilité que nous avons de pouvoir transmettre tout ce qu'il y a de beau, parce que malheureusement, des choses moins belles ont été dites sur, je dirais de façon générale, sur le milieu orthodoxe en Israël. J'ai vu des journalistes israéliens faire toutes sortes d'analyses, je pense, qui n'ont pas lieu d'être. Nous sommes tous responsables les uns des autres.
Mariacha, puisque je suis, parce que c'est mon métier, et donc je suis très interpellé par ce que vous dites. Moi, je pense qu'on a passé une année de solidarité. Je pense qu'en Israël, par contre, ça a été souvent brutal. Et que ça ne vient pas des laïcs contre les religieux ou des religieux contre les laïcs. Il y a un autre mot que j'entends très peu utiliser en ce moment. Beaucoup parlent de cette haine, puisqu'elle est tellement... Parce que c'est sûr qu'en plus, à l'issue, comme vous l'avez très brillamment souligné à l'issue du Homer, où on pense à la haine des uns les uns contre les autres, puisqu'ils sont morts à cause de ça, paraît-il, à l'époque de Rabbi Akiva. Mais il y a un autre mot, c'est la jalousie. J'entendais beaucoup de gens s'indigner pendant l'épidémie sur le fait que « Regarde, à Tel Aviv, vivant à la plage », comme si d'ailleurs tout Tel Aviv à la plage, mais enfin bon. « Regarde, les religieux, ils ouvrent leurs écoles, ils en ont à foutre de nous. » Et quelque part, c'était un peu dans tous les sens. Si on parle, moi je peux pas faire comme vous, j'ai pas vos connaissances, mais si on échange de tirer des enseignements, je pense que cette explosion est arrivée à un moment où il y a aussi le mot jalousie.
Bah, du coup, vous revenez sur le thème de l'espace des uns et des autres.
Parce oui, que la jalousie, bien sûr, je discute avec vous, évidemment.
Ouais, donc ça revient encore une fois à ça. Bon, moi, j'ai été interpellée par une interview que j'ai entendue d'un journaliste très connu en Israël qui s'appelle Yaron London.
Non, mais lui, il faut qu'il arrête le métier. Hein.
Voilà, bon, mais ça m'a interpellée.
Il est un chauffeur de Uber, lui.
Parce que oui, on est un seul peuple et qu'on est profondément touchés les uns par les autres. Et c'est ce que dit Rashi ici même. Nous sommes touchés par les uns par les autres et nous devons être touchés les uns par les autres. Et vraiment, pour terminer cette petite étude, pour ainsi dire, je voudrais citer ce passage dans le Talmud Yoma. Talmud Yoma, page 21a, nous raconte, bon, c'est la Maseret qui parle de Yom Kippour, et il nous raconte un des 10 miracles qui avait lieu au temple, alors qu'il y avait les Olim, la Régel, c'est-à-dire les pèlerins qui montaient au temple 3 fois par an, et donc à Yom Kippour également, et qui allaient à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu pour, notamment le jour de Kippour, faire leur vidouille, se confesser et dire et regretter leur faute. Et alors, Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda enseigne au nom de Rav. Alors, je vais vous le dire dans les mots. Bécha'a chez Israël, Olim la Régel. Au moment où Israël monte à pied au temple, Omdim Tzufim. Il faut savoir qu'ils se tenaient debout, très, très serrés les uns contre les autres. L'esplanade du temple était bondée les jours de Aliyah la Régel. Hein. Et là, c'est le miracle. Et pourtant, c'est étonnant, au moment où ils se prosternaient à terre, il y avait beaucoup d'espace les uns pour les autres, ce qui est tout à fait illogique. Parce que si, debout, on est serré les uns contre les autres, on ne peut pas se prosterner. Et alors, l'Agmara de répondre, pourquoi est-ce nécessaire de faire un tel miracle dans le temple? Alors, pourquoi, dit l'Agmara? Eh bien, ils ont été espacés de sorte que personne ne puisse entendre la confession d'un autre, que personne n'entende le vidouille de l'autre. Mmh. Parce que qu'est-ce qui se passe si j'entends le vidouille de l'autre? Eh bien, j'entends sa petitesse. Et donc, je me grandis, mais je me grandis de façon fantasmée par rapport à la petitesse de l'autre, et donc je vais grignoter son espace. Parce que s'il est petit, s'il a fait de telles fautes, eh bien, il a moins de mérite que moi, pour ainsi dire, qui suis-je, évidemment, pour le considérer de cette sorte. Mais que faire? C'est dans l'esprit humain que si j'entends la petitesse de l'autre, eh bien, je vais peut-être, moi, croire en un fantasme de grandeur et grignoter l'espace vital de l'autre. Et il ne faut pas que je grignote l'espace vital de l'autre. Alors, je trouve cette explication remarquable. Et qui rentre tout à fait dans cette idée-là d'espace et d'être serré et d'avoir de la largesse et de se respecter les uns les autres. Et puis je terminerai en disant quelque chose d'évident. Finalement, peut-être qu'au moment où les personnes qui étaient sur l'esplanade du temple au Beit HaMikdash se prosternaient, il y avait de l'espace pour l'autre. Eh bien oui, parce que cette action-là de courber la tête, de ne pas avoir le torse bombé et de se baisser tout simplement, c'est forcément une action qui donne de la place à l'autre.
Magnifique.
Et donc, c'est ainsi qu'on peut vivre tous les uns et les autres en communion, en ressentant les émotions les uns des autres, et pas seulement quand il y a des difficultés, que Dieu nous préserve, qu'il envoie une consolation totale à toutes ces familles endeuillées. C'est difficile de vivre de loin. Vous savez, à la lecture des informations, j'ai qu'une envie, c'est aller les consoler, aller être présent dans leur maison. Les adresses ont été diffusées massivement sur les réseaux sociaux et les personnes viennent. Et voilà, de loin, voilà, s'il y a des Israéliens qui nous entendent, j'ai envie de leur dire qu'ici, de France, notre cœur bat avec eux très fortement. Et on va essayer de profiter au maximum des derniers jours du Homer avant Shavuot pour essayer d'améliorer notre possibilité à faire de l'espace les uns aux autres.
On va essayer. Déjà essayer, c'est beaucoup. C'est déjà une forme de laisser de l'espace. Des fois même l'autre sent qu'on essaie. Maya Chadré, je vous remercie. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, au Mevorach à tous.
On retrouve à présent une histoire pour Shabbat qui vous est présentée par Raphaël Kleinman.
Bonjour à tous, on se retrouve pour notre chronique Une histoire pour Shabbat. Un jour, il y a un grand rave qui a été convié par un homme riche chez lui pour pouvoir donner des cours intensément à son fils, des cours de Torah et de judaïsme. Il y a là, et son contrat devait durer plusieurs mois. Il lui expliqua avec beaucoup d'enthousiasme tous les aspects de la Torah, il lui a appris le Talmud, etc. Et à la fin de la période, il fut rémunéré, une somme assez confortable, et comme c'était à l'époque, la rémunération se faisait grâce à une bourse remplie de pièces d'or, d'argent et de cuivre. Il prit la bourse, prit son cheval pour retourner dans sa ville natale. Il entreprend son voyage jusqu'à ce qu'à un moment arrive Shabbat. Donc forcément, il doit s'arrêter dans une ville, dans une auberge pour Shabbat. Et avant que Shabbat n'arrive, il cherche un endroit où pouvoir cacher la bourse à l'esprit de tous les regards, à l'esprit des voleurs, à Shalom. Il trouve un endroit, il la cache bien. Il passe Shabbat dans l'auberge, il va à la synagogue. Et en sortant, à la fin de Shabbat, il retourne à l'endroit, il prend la bourse, il l'ouvre et il commence à compter toutes les pièces d'or, puis il compte toutes les pièces de cuivre pour vérifier qu'il y a bien le compte. Effectivement, tout est bon. Et là, tout le monde l'a regardé ses pièces, tout le monde l'a regardé compter ses pièces, et les gens l'interrogèrent en lui disant « Dis-moi, tu as compté tes pièces d'or, tu as vu qu'elles étaient toutes ici. Pourquoi est-ce que tu vas t'embêter à compter tes pièces en cuivre ?» Forcément, si un voleur était passé, il aurait pris les pièces d'or. Donc si tu les as toutes, c'est que forcément, personne n'a touché non plus aux pièces de cuivre. On voit, dans la paracha de la semaine, la mitzvah de la Shemitah. C'est pendant 6 ans, on va devoir travailler la terre, et la 7e année, on ne doit pas y toucher. Et Hachem, il nous dit, si vous respectez cette mitzvah, alors je vous donnerai assez de récolte dans la 6e année pour pouvoir subvenir à la 7e et la 8e année. Et aussi, bien entendu, à la 6e année. Pourquoi ? Parce qu'on ne doit pas travailler la 7e année, donc on doit avoir de la récolte pour la 7e année, et on n'aura rien récolté pour la 8e, et Dieu il nous donnera aussi pour la 8e. Et c'est la seule mitzvah de la Torah où Dieu il dit « Allez-y, testez-moi par rapport à ça, et vous verrez. » Et effectivement, il y a de nombreux témoignages des personnes qui ont gardé cette mitzvah de la Shemitah. La 7e année, ils n'ont pas travaillé le champ, et ils ont été récompensés par Akadosh Baruch Hu avec beaucoup d'abondance. Quel est le rapport avec notre histoire? C'est que l'homme, on voit quand il comptait ses pièces, il doit se focaliser sur le principal. Lorsqu'il voit que son principal, les pièces d'or sont toujours là, c'est que forcément, il y aura toujours les pièces de cuivre. Là, c'est la même chose. Dieu, il t'a déjà donné les pièces d'or. Il voit, tu es toujours en vie, tu as de quoi te nourrir, etc. Alors, les petites choses, les petites pièces de cuivre, comme ne pas travailler une année, te reposer, ce qui aurait été extraordinaire, ne pas faire attention aux petits détails, aux choses qui ont en réalité dérangeantes pour l'homme, étant donné que c'est un travail supplémentaire, Dieu te dit, dis-moi, ne te préoccupe pas de ça, ne commence pas à stresser, oui, mais si je travaille pas à 7e année, je vais pas avoir de quoi me nourrir. Pourquoi est-ce que tu te préoccupes de ça, qui correspond aux pièces de cuivre, alors que tu vois que tu as déjà tes pièces d'or, tu es en bonne santé, tu as une bonne famille, tu as que du bonheur? C'est pour ça qu'il faut se rendre compte tout le bien que Dieu nous donne, pas juste se focaliser sur les petites choses qui nous manquent, et se dire que si Dieu il est capable de nous donner tout ça, de faire en sorte qu'on soit en bonne santé et que tout aille bien, comment est-ce qu'on pourrait s'angoisser pour des petites choses comme par exemple l'argent, notre parnassa ou des petits soucis? Shabbat shalom à tous.
Voilà, c'était une histoire pour Shabbat qui vous est présentée par Raphaël Kleinman. Cette émission prend fin, donc c'est à mon tour de vous dire à toutes et à tous Shabbat shalom. On retrouve Kabbalat Shabbat toutes les semaines sur Radio Shalom à 16h30. Et je vous retrouve dans un instant à 18h pour un journal complet enregistré.
Shalom leiboy na boy, Hashem lo yishmarich. Shav shokat shoy mei, Hashem lo yine ba'is. Shalom leiboy na boy, Hashem lo yishmarich. Shav shokat shoy mei.